France Musique.
Quel scandale! Le massacre du printemps. L'histoire de la musique française est jalonnée de quelques scandales retentissants, comme celui de la muette de Portici, d'Auber, ou de Benvenuto Cellini, de Berlioz. Mais le XXe siècle n'en fut pas avare non plus. Un des plus épiques eut lieu à Paris en 1913, à l'aube de la Première Guerre mondiale, au Théâtre des Champs-Élysées. Au programme, la création du Sacre du printemps de Stravinsky, chorégraphié par Nijinsky. Et ici, quatre personnes impliquées dans l'événement pour nous en parler. Tout d'abord, Gabriel Astruc, journaliste, auteur dramatique, éditeur, impresario. Il est un véritable homme d'affaires et un brasseur de talents. Tout naturellement, il aspire à une certaine indépendance artistique et réussit à se faire financer un théâtre Art Nouveau, tout en béton, avenue Montaigne. Celui que nous appelons le Théâtre des Champs-Élysées. Pour son inauguration, le 31 mars 1913, il a vu les choses en grand. La façade de son théâtre illuminée par le faisceau de la Tour Eiffel. Et ça a marché! Le Gotha parisien s'est précipité. Quelle publicité! Et... honneur à la musique française. Debussy, Ducas, Vincent d'Indy, Chabrier y ont interprété leurs œuvres, mais surtout, il a fait reprendre ce fameux Benvenuto Cellini de Berlioz, qui en son temps a fait scandale à l'Opéra de Paris. Car les scandales, ça ne l'effraie pas, bien au contraire. Il est comme ça, Gabriel Astruc. Et voici ce qu'il prépare. J'ai conçu cette première saison musicale sous le signe de l'audace et de la modernité. Depuis 2 mois que mon théâtre est ouvert, je dois, ce soir, jeudi 29 mai 1913, créer à nouveau l'événement par cette grande soirée de gala. Car j'ai fait venir rien moins que les ballets russes de Diaghilev. Les ballets russes! Chacune de leurs tournées parisiennes est un événement. Le tout Paris ne jure que par eux. Leur exotisme oriental, leurs danseurs extraordinaires, Nijinsky pour n'en citer qu'un, font toujours sensation par leur technique et leur expressivité hors pair. Oui, ce soir, l'événement sera chez moi, au Théâtre Astruc. À l'affiche, une création du jeune compositeur russe Igor Stravinsky, tout à fait de saison, le Sacre du printemps. Stravinsky n'est pas un bleu. Malgré son jeune âge, il a déjà brillé avec L'Oiseau de feu et Petrouchka, deux triomphes. Diaghilev et lui se connaissent bien et s'apprécient. Ces deux-là ne sont pas du genre à ronronner sur leurs acquis. Et cette partition nouvelle, ce Sacre du printemps, promet de faire son petit effet. Diaghilev, qui s'est fâché avec Fokine, a chargé Nijinsky de la chorégraphie. Et je sens bien que Diaghilev est plus nerveux que de raison. Il a pensé qu'il serait bon de prévoir une claque, avec ma complicité bien sûr. Une armada de jeunes gens, placés derrière les corbeilles, assureront la défense de l'œuvre, coûte que coûte. Je lui fais confiance. Il sait ce qu'il fait. Mon théâtre est magnifique. Son élégante construction en béton armé, si moderne et très harmonieuse, son plafond de Maurice Denis, ses décorations de bourdelles et vuillards, offre un écrin à la mesure du public qui s'y presse. Car le vrai spectacle commence dans la salle, surtout aujourd'hui. Aux premières loges et aux places de Corbeil, je vois s'installer toute voile dehors la société la plus choisie du Faubourg Saint-Germain. La grande duchesse Vladimir, la comtesse Gréful, Lady de Grey, la marquise douairière de Pourtalès, la princesse Murat, la princesse de Polignac, les Gramont, Castellane Poniatowski, Radziville, qui encore? Dans chaque loge, c'est un éblouissement de diadèmes, de sautoirs et de toilettes somptueuses, se détachant sur les fracs impeccables d'un Arthur de Gabriac ou d'un Bonny de Castellane. Spectacle inoubliable qui, pour bien des raisons sociales, financières et économiques, ne se reverra pas de sitôt, hélas. Au fauteuil, le dernier carré des grands abonnés de l'opéra. Haute forme à 8 reflets, chemise tuyautée et canne de jonc à pommeau d'or. Ah, je reconnais la longue silhouette du comte de Beaumont, la barbiche, second empire du marquis de Massa, les grands favoris blancs du marquis de Modène. Et puis, à leur poste d'observateur, l'illustrateur et caricaturiste Sem, Jacques-Émile Blanche, Picasso, José Maria Sert. Et puis, partout, l'œil curieux et suprêmement intéressé de Marcel Proust. Tenez, voici le large rire de l'Agacan, grand mécène des ballets russes. Inséparables dans la loge de Missia Sert, Paul Claudel et Philippe Berthelot. Non loin d'eux, André Messager, la moustache en bataille, et puis les élégantes Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin et D'Annunzio, attirés par l'odeur de la poudre, prêts au combat. Bien entendu, tous les grands diplomates étrangers sont aussi présents. Des musiciens, des poètes. Ceux de la maison d'abord. Debussy, dont Nijinsky et Karsavina viennent de créer le ballet « Je ». Le jeune Florent Schmitt, de qui la tragédie de Salomé est inscrite au programme. Maurice Ravel, autre illustration des saisons russes, où son Daphnis et Chloé a fait sensation. Et puis encore, Reynaldo Hahn, Éric Satie, Jean Cocteau, Darius Milhaud, Georges Auric, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Germaine Taillefer. Enfin, un peu partout, aux places restantes, les esthètes de tout poil. Les jeunes fauves de la peinture, de la sculpture, de la musique. En un mot, tous les clans, des super debussistes, des hyper ravéliens et des stravinskistes extrémistes armés jusqu'aux dents. Ceux-là, conscients et organisés, n'ont sorti ni frac ni queue de morue. Dans leur groupe, le smoking voisine avec le veston à carreaux, voire avec le chandail ou le trench coat. Tel est l'étrange chimie de cette salle de première, bondée, vibrillonnante. Je la couvre une dernière fois du regard. Le grand plafonnier s'éteint. Le rideau de scène se lève. Les premières notes aiguës du basson Laissons ici la parole à Léon Vallas, écrivain et critique musical pour la Revue française de musique. À peine le basson a-t-il lancé sa ligne mélodique qu'on entend les premiers murmures, des « oh », des « ah », des approbateurs, plus ou moins forts sur des tons variés. Et puis, très vite, les murmures se transforment en sifflets. C'est invraisemblable. Ricanements, huées, quintes de tout partent des loges. Et voilà qu'on riposte, l'autre partie de la salle se met à vrombir elle aussi. Aurait-on dissimulé des petits klaxons de bicyclette sous les smokings? Aurait-on préparé une cabale? On croirait entendre un volcan au bord de l'éruption et on n'entend plus du tout la musique. Moi, Léon Vallas, qui n'en suis pas à mon premier chahut, j'ai peine à garder les yeux sur la scène. Des spectateurs se déplacent dans la pénombre. Des jeunes gens descendent des étages pour prendre position entre les premières loges et les avant-scènes de Corbeil. J'en reconnais certains. Florent Schmitt, par exemple, compositeur de la Jeune Garde, il a l'air comme fou, un véritable enragé. Il fait volte-face vers les loges. « Taisez-vous, garce du 16e !» Les invectives fusent de plus belle. Paul Favet, le peintre, hurle dans le même registre. « Taisez vos gueules, tas de salauds !» En retour, on entend Maurice Ravel se faire traiter de sale juif. La vieille marquise de Pourtalès n'en peut plus d'indignation et, le diadème de travers, elle s'exclame aussi fort qu'elle peut « C'est la première fois en 60 ans qu'on ose se moquer de moi !» Dans la salle, des hommes en grande tenue grimpent sur leur siège. Dans une loge, une dame gifle son voisin qui vient de siffler. Un autre essuie un crachat. On se provoque, on se moleste. C'est un pugilat de carnaval. Alors, Diaghilev fait rallumer le plafonnier de la salle. Ce qui en calme quelques-uns seulement. Une poignée d'agents de police se précipitent pour mettre la main sur les plus excités, mais de toutes parts on vocifère debout, on éructe à qui mieux mieux. Scandale sur scène ou scandale dans la salle? C'est une foire indescriptible. Et pourtant, le spectacle continue sur la scène et dans la fosse. Tableau de la Russie païenne. C'est le sous-titre de l'œuvre. Et en effet, tout dans la musique et la danse est du genre, primitif. J'ai beau rester aussi calme que possible, je n'en pense pas moins. La musique de Stravinsky donne dans le grincement continu et volontaire, mais elle déploie des qualités mélodiques remarquables. Elle frémit d'une vie rythmique enivrante, éblouissante. Mais cette chorégraphie de M. Nijinsky ne me plaît pas. Elle est ridicule. Cela ne ressemble à rien, ces mouvements saccadés, ces pieds en dedans, ces genoux pliés, ces dos voûtés, ces coudes anguleux, ces têtes penchées vers le sol, la main sur la joue. Vite, qu'on appelle un dentiste, qu'on en appelle même deux. Et puis, ces piétinements qui n'en finissent pas, ces sauts frénétiques, ces rondes répétitives, ces trépignements de la danse, ça, plutôt des convulsions d'épileptiques, oui. Même les costumes ne sont ni gracieux ni élégants. Ces gros bonnets rouges pointus, ces longues tuniques droites, dont on dirait de pesants peignoirs de bain, ces lourdes bottes de tissu lacé, tout rend cette troupe massive, tout l'ancre furieusement dans la terre, comme pour l'y enraciner. Sur scène, si les danseurs essaient de tenir tant bien que mal en mesure, les musiciens essaient de suivre leur chef, Pierre Monteux, insubmersible, qui fait preuve depuis le début d'un courage admirable. Il tient, vaille que vaille, le gouvernail d'un bateau qui a pris l'eau de toutes parts et jette frénétiquement des œillades désespérées vers la loge du directeur, M. Astruc, qui lance vers la salle son ultime cri d'adjuration. Écoutez d'abord, vous sifflerez après. Non. La barbarie ce soir n'est pas du côté que l'on croit. Bronislava Nijinska, danseuse et sœur de Nijinsky, assiste aussi à cela. Pauvre Vaslav, quel insupportable gâchis! Et notre mère qui s'est évanouie au premier rang! C'est moi, Bronislava Nijinska, sœur chérie du chorégraphe, qui devait danser l'élu du Sacre du Printemps. Cet élu qui va maintenant entrer en scène. C'est un rôle essentiel du Sacre. Une figure possédée qui meurt de sa propre frénésie pour sauver la terre. Si je n'étais pas tombée enceinte, je l'aurais interprétée. Et qui sait, peut-être aurais-je pu sauver cette soirée. Je m'y voyais sous les nuages noirs et les ciels tourmentés des tableaux du peintre Nicolas Reurich. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, Vaslav est entré dans une furie démente. Il ne se sent déjà pas légitime en remplaçant Michel Fokine. Alors, par ricochet, le soutien envers et contre tout de Diaghilev lui pèse tellement. Je vois bien qu'il se sent encombré par cette tendresse-là, et moi je l'ai abandonné. C'est la première fois que Diaghilev lui confie la responsabilité de sa troupe entière, et pour une chorégraphie vraiment longue. Dans l'après-midi d'un faune de Debussy, il avait pu imposer son originalité animale et sensuelle, ses déplacements latéraux. Mais ici, la vraie difficulté de Vaslav est qu'il ne conçoit pas que les danseurs n'aient pas son aisance, qu'ils n'entrent pas dans sa vision spontanément. Il se ronge d'angoisse depuis des mois. Et ce soir, je me tiens à quelques pas de lui, dans la coulisse où, juché sur un tabouret au bord de la scène, crispé, hagard, blême, ils scandent leur rythme aux danseurs qui ont l'air perdus. Et il y a de quoi ? Ils n'entendent plus la musique qu'avec tout ce chahut. Qu'est-ce qui a choqué le plus le public ? La musique ou la danse ? Vaslav se sent méprisé par Stravinsky. « Bronia », m'a-t-il dit l'autre jour. « Igor Fyodorovitch m'exaspère. Nous perdons tellement de temps. Il s'imagine qu'il est le seul à s'y connaître en musique. Lorsqu'il travaille avec moi, il m'explique la valeur des noirs, des blanches, des croches, des demi-croches, comme si je n'avais jamais étudié la musique. » Moi, je pense que la chorégraphie de mon frère est plus qu'à la hauteur de la musique de Stravinsky. Visionnaire et certainement en avance sur son temps, comme il l'a déjà montré dans l'après-midi d'un faune. S'il rejette la disposition symétrique et les figures répétées que l'on donne traditionnellement au corps de ballet, il conçoit les ensembles comme un tout, une unité. Il a aussi inventé des pas insolites, des sauts inhabituels, des mouvements brusques, d'une spontanéité brute comme jaillie du sol. Tout en angle, en cassure, en frémissement, en tremblement. Je trouve que Vaslav a su révéler la créature primitive en l'homme et en montrer l'apparence presque bestiale. Mais à travers cette bestialité, c'est bien sûr la nature elle-même qu'il célèbre, la terre-mère, principe de toute chose. Sa chorégraphie va tout à fait dans le sens de la musique de M. Stravinsky. Voilà ce que le public ne peut pas supporter, ne peut même pas comprendre. Et il reçoit cette primitivisme en pleine face, sans ménagement. Mais voici le début de la danse finale, le sacrifice de l'élu. Le silence revient. C'est l'instant de grâce. Ça ne va pas durer. Igor Stravinsky, le compositeur, comment comprend-il la situation ?
Pour moi, Stravinsky, cette soirée restera à jamais très désagréable. Et je vais m'efforcer de l'oublier au plus vite. Quand je pense que nous avons, pour ce monsieur Nijinsky, repoussé d'un an la date de cette création, et pour quel résultat ? C'est le plus pitoyable scandale que la vie musicale parisienne, voire européenne, ait jamais connue. J'ai été spolié de ma propre musique et du triomphe qu'elle aurait mérité. Ce Nijinsky, lui, je ne l'ai pas vraiment voulu comme chorégraphe. Diaghilev me l'a imposé. J'ai écrit une œuvre architectonique, non anecdotique. Mais là où j'avais rêvé de simplicité, Nijinsky m'a donné la lourdeur, l'obscurité. Certes, ma musique multiplie les rythmes nouveaux à 1, 2, 3 et 5 temps. Ces rythmes sont inhabituels pour la musique occidentale et encore plus pour la musique de ballet. Mais ils sont aussi un détournement et une forme d'hommage à la musique folklorique slave. Cette idée, je l'avais conçue dès 1910 en collaboration assez étroite avec Nicolas Reurich, dont la sensibilité m'est fraternelle et qui connaît en expert l'univers du paganisme. Je crois que le public du Théâtre des Champs-Élysées n'a tout simplement rien entendu de mon sacre. Les réactions de rejet dès l'attaque du prélude m'ont scandalisé. J'ai aussitôt quitté mon siège du quatrième rang et me suis rendu en coulisses, d'où j'ai observé Nijinsky et tâché de le retenir au bord du gouffre en le tenant par son habit jusqu'à la fin. Le soir même, quand nous sommes sortis dîner tous les trois avec Diaghilev, ce dernier a murmuré entre ses dents d'un air satisfait « Exactement ce que je voulais ». Quel cynisme ! La presse s'est déchaînée et je m'en suis sorti avec plus d'honneur que Nijinsky, ce pauvre garçon qui a dû rapidement rendre sa place de chorégraphe à Michel Fokine. Ces cinq représentations parisiennes m'auront suffi. Et je suis allé faire valoir le génie de ma partition ailleurs, en la débarrassant de cette encombrante chorégraphie. Mais je ne lui en ai pas tenu rigueur bien longtemps, voyez-vous, car moins d'un an plus tard, en avril 1914, j'ai reçu la confirmation que j'attendais. Pierre Monteux l'a dirigé à nouveau dans une version de concert au Casino de Paris. Et ce fut un succès extraordinaire, une salle archi-comble. Le public, qui n'était plus distrait par le spectacle scénique, a écouté mon œuvre avec une attention extrême et l'a acclamée avec un enthousiasme qui m'a bouleversé. On m'a même porté en triomphe dans la rue, jusqu'à l'église de la Trinité. Oui, une vraie consécration.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
Le massacre du printemps, ses causes, ses conséquences, avec un retour sur la terre-mère de Russie.
Thank you. спел. Чем наградить тебя, скажи? Я жалую его на шею туплю золотую.
We'll be right back. Thank you.
Nous avons entendu le scherzo à la russe, des extraits de Mavra, de Petrouchka, de Rossignol, de L'Oiseau de Feu, d'Igor Stravinsky. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était « Quel scandale ?» Aujourd'hui, le massacre du printemps. Une émission de Jérémy Rousseau, réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet, avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Prise de son et mixage, Tahar Bouklifa et Olivier Dupré. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme samedi prochain, Berlioz en rage.
À réécouter sur francemusique.fr.